d'où surgissait l'humanité, tout cela a disparu du texte. C'est un texte qui se déploie comme une hymne, c'est un texte où Dieu parle, et en même temps c'est un texte rempli de douceur, jusqu'au don que Dieu fait à l'homme de sa nourriture. Manger, qu'est-ce que ça signifie? Manger, c'est généralement prendre, de consommer, comme nous disons, pour faire disparaître. Manger, c'est assimiler à soi. Et quand je mange, l'autre n'a plus ce que j'ai mangé, c'est ingérer quelque chose. Et donc c'est une sorte d'affirmation du moi. C'est aussi tout ce que peut signifier une boulimie, une faim incoercible, ou au contraire une anorexie. Refuser de manger. Il y a, ce n'est pas un caractère moral ici, c'est un caractère simplement psychologique, il y a à vouloir amasser, prendre de la nourriture, il y a une sorte de prise de possession, parfois l'expression d'une frustration, vouloir combler une frustration, l'expression de vouloir dominer, de vouloir posséder, marquer en quelque sorte le territoire. Où il y a aussi, au contraire, dans un phénomène d'anorexie, une sorte de vouloir disparaître. Ne pas prendre sa place, au contraire. Et ce terme de manger est rempli de signification. Pour vous, il sera à manger. Mais le manger ne se fait pas dans la violence, mais dans la douceur. Et pour tout vivant de la terre, pour tout volatile des cieux, et pour tout rampant sur la terre qui en soit être vivant, toute verdure d'herbe sera à manger. Mais mine de rien, on montre bien dans ce texte, puisque les animaux sont sur le même plan que l'homme, ils sont aussi végétariens. Les auteurs savent très bien que l'animal n'est pas végétarien, et les auteurs ont sacrifié pas mal de bêtes, hein. Ils savent très bien tout ça. Mais il y a comme l'expression d'un monde utopique qui se déploie dans leur imagination. Ils disent bien, voilà le monde tel que Dieu le rêve.
Ce sera repris par Isaïe.
Oui, oui, tout à fait. Tout à
le
fait.
Le loup et l'agneau.
Le loup et l'agneau pèsent ensemble, etc. C'est un monde sans violence. C'est le même, d'ailleurs, c'est un peu, oui, sinon, Isaïe est beaucoup plus tôt, mais c'est un peu la même mentalité, la même perspective. Et il vit Dieu, et ce fut ainsi, pardon. Et ce fut ainsi. Et il vit Dieu, tout ce qu'il avait fait, et voici. C'est très bon. Nous mettons généralement ce « c'est très bon » ou « c'est bon » au passé. C'était bon. Il vit que c'était bon. En fait, il n'y a pas de verbe en hébreu. Et il vit que bon. Il parle comme nous parlons aujourd'hui, hein. Nous ponctuons souvent nos phrases de « bon ». Je dis que « bon », « bon », voilà. Alors, « il fut soir, il fut matin, jour sixième ». Voilà le tableau. Et ce tableau apparaît comme achevé. Donc il a en lui-même un achèvement, un certain accomplissement, certain, je dis, parce que on aurait pu inventer d'autres mondes, mais ce ne sont pas des mondes inventés, ce sont ceux qui sont. Et ils furent achevés, les cieux et la terre, il revient au premier verset, vous voyez bien qu'il y a une inclusion entre la conclusion et l'introduction, et ils furent achevés, les cieux et la terre, et toute leur armée, tout ce Bataclan qui est présent dans le monde. Et il acheva Dieu au jour le septième son ouvrage qu'il avait fait. Et ici de nouveau, les rabbins et les pères de l'Église mettent en évidence ce mot achevé. savons-nous achever une œuvre? Là, il y a des gens qui ne savent jamais achever. On dit qu'ils sont perfectionnistes, et ils veulent toujours ajouter davantage, c'est jamais terminé. Mettre le point final. Mais réfléchissons un instant. Mettre le point final à une œuvre, c'est accepter qu'elle ne soit pas parfaite, qu'elle soit limitée. Et c'est extrêmement important d'accepter que nos œuvres soient limitées. Dieu a fait cela lui aussi. Il a accepté de mettre un point. Pas un point de suspension, mais un point. Il acheva. Et justement, là, les rabbins ont de très belles choses là-dessus. Il est quelquefois nécessaire, lorsqu'on a terminé l'exégèse d'un texte, lorsqu'on a montré comment les commentateurs traditionnels le lisaient, de s'arrêter. D'ouvrir les yeux autour de soi et de se demander, mais quel rapport y a-t-il entre ce texte et la vie? Mais il faut s'arrêter. Il faut donner la parole à l'action. Il ne faut pas rester continuellement à élucubrer comme nous l'avons fait jusqu'ici. C'est un peu cette question qui me semble s'imposer dans nos réflexions sur le terme qui est utilisé, tels sont les engendrements, au verset 4, les toledotes, c'est-à-dire les engendrements. Il y a là toute une mise en place des structures de la fécondité. C'est comme si Dieu s'engageait à pourvoir aux besoins de l'humanité. Il lui donne à manger. Ce n'est pas l'homme qui prend possession de sa nourriture, comme le ferait l'animal, mais il la reçoit comme un don de Dieu. C'est aussi ce qui fonde la prière avant les repas. Pour les juifs, ici, la prière avant les repas est assimilée à ce texte. Dieu nous donne à manger. Ce n'est pas moi qui prends la nourriture. Je la reçois. Et puisque je la reçois, je dis à Dieu, je le bénis, c'est-à-dire, je dis qu'il est source de bénédiction, c'est-à-dire source de vie. Or, comment se dissimuler l'inquiétude et le scepticisme qui envahissent peu à peu les hommes lorsqu'ils considèrent leur devenir? Ne vous demandez pas, dit Jésus, ce que vous mangerez, ou de quoi vous vêtirez-vous. Le Seigneur sait ce dont vous avez besoin. Il revient à l'exégèse du texte. L'épuisement des matières premières et la limitation des ressources naturelles est davantage qu'un sujet à la mode. C'est un problème qui revient sans cesse au premier plan de l'actualité. Il est donc indispensable, me semble-t-il, de nous poser cette question. Les ressources de l'humanité sont-elles réellement aussi suffisantes que le projet créateur nous le laisse entendre? Hey, comment? Je vous lis ce texte parce que ça vous montre bien comment un juif réfléchit à partir du texte. Il ne le prend pas comme argent comptant, il réfléchit. C'est peut-être le fondement de notre angoisse. Aurons-nous de quoi manger demain? Voyez, il rejoint l'évangile. La fécondité de la nature est-elle infinie? Ah non. Nous savons maintenant que c'est là la bénédiction divine. Mais nous savons également que la Torah parle de malédiction d'une terre qui soudain se transforme en désert ou de la femme stérile. L'angoisse de ne pouvoir donner naissance à un enfant est connue. La Torah donne pour la terre des lois d'utilisation auxquelles l'homme doit se soumettre. La Torah donne pour la terre des lois d'utilisation auxquelles l'homme doit se soumettre. Il ne va pas utiliser la terre de n'importe quelle manière, mais selon l'optique du Créateur. En principe, la bénédiction est éternelle, mais voilà la réalité, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors voilà comment il continue. Le Shabbat est essentiellement fait pour l'homme, pour son ressourcement. L'année sabbatique elle-même, l'année sabbatique, elle, même si les préoccupations sociales ne sont pas étrangères à son institution, est plutôt faite pour la terre. C'est elle qu'il faut laisser reposer. Mettre le point final ou s'arrêter dans une œuvre, c'est accepter qu'on ne soit pas tout. C'est accepter sa limite. Et Dieu, le tout premier, pourrait-on dire, accepte sa limite. Non pas la limite à soi, mais la limite à son ouvrage. Et voyez bien que ce que Dieu n'a cessé de faire jusqu'ici, et c'est là sa douceur, c'est de mettre en branle un homme, un monde, pardon, puis un homme, en s'effaçant de plus en plus. C'est précisément ce que le juif appelle l'effacement de l'homme, comme l'effacement de la femme qui laisse place à son enfant dans son sein. C'est l'effacement de Dieu qui laisse place à l'homme et qu'il va lui laisser petit à petit une initiative, y compris l'initiative de gâcher le monde dans lequel il se trouve. Car il est à l'image de Dieu et donc capable d'autonomie. Et donc capable de délibération, faisons. Et donc responsabilité créée dans l'homme. Notons en passant que ce n'est pas seulement dans la Bible que l'on trouve le principe du repos de la terre. La jachère et la seulement triennale sont des usages universels. Mais dans la Bible, cette loi prend un caractère contraignant, tout à fait spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Dieu donne la loi, ou le principe d'une loi. Vous voyez bien que Dieu, en faisant exister, donne une loi au monde et à l'homme. Tout don est une loi. Je donne quelque chose à mon enfant. Le don lui-même lui signifie que je suis don. Qu'est-ce que l'enfant va faire du don ? Le prendre pour lui ou le donner ? Vous connaissez l'histoire qui est racontée dans chez les moines, l'histoire des moines, d'un moine malade qui avait reçu une grappe de raisin. Et il reçoit ce raisin parce qu'il avait besoin d'un peu de vitamines. Et il dit, ben oui, j'ai reçu cette grappe de raisin, donc je ne peux pas la garder pour moi. Et il va la donner à un frère qui en a plus besoin que lui. Qui lui-même se dit, ben pourquoi il m'a donné cette grappe de raisin ? Il y a un frère à côté qui a plus besoin que moi, qui a besoin de se renforcer. Et il va passer la grappe de raisin à l'autre. Si bien que la grappe de raisin fait le tour du monastère et revient à celui qui l'avait reçu la première fois. Et qu'il la reçoit de tous les autres. Et voilà, c'est ça le don. Le don, c'est quelque chose qui se multiplie et qui fructifie. Or nous, je l'ai reçu en cadeau, donc je vais le garder pour moi. Et même le donateur me dit, surtout gardez-le pour vous. Mais non, si je l'ai reçu, c'est pour le donner. Puisque c'est
grand. Personne n'a mangé la grappe.
Je n'en sais rien. Là, nous pouvons tirer les leçons. C'est pas moi, c'est la parabole. Alors, ceci est très bien, mais dans la Bible, cette loi prend un caractère contraignant tout à fait spécifique. Elle est la clé de la possession de la Terre Sainte, et c'est très réel aujourd'hui. Il y a la droite et il y a la gauche. Est-ce que, parce que la Terre promise nous a été donnée, nous la gardons ? Ou parce que elle nous a été donnée, nous la partageons ? Vous voyez ? Il y a deux thèses qui sont deux thèses religieuses et qui sont aujourd'hui tout à fait d'actualité. On ne le dit pas au grand jour, mais c'est bien cela qui est dans la réflexion des uns et des autres. Et souvent, les religieux sont pour la garder parce qu'elle m'a été donnée. Elle est la clé de la possession de la Terre Sainte. Dieu avertit explicitement les Hébreux, s'ils n'observent pas la loi de la terre les vomira, ils seront exilés. Et alors la terre retrouvera ses Shabbats tout le temps qu'elle restera en friche. On peut évoquer ici, dit Armand Bécassis, le principe général qui régit ce rapport de l'homme au monde. La loi du rapport de l'homme au monde. Tu ne dégraderas pas. ou encore plus particulièrement par rapport à la végétation, le Midrash nous rappelle que si le Messie venait, s'il trouvait un homme plantant un arbre et lui disait « Suis-moi immédiatement », cet homme doit d'abord terminer son œuvre. Le Messie attendra qu'il ait fini de planter l'arbre. Dieu a donné une terre à Israël en l'avertissant. Si vous l'exploitez trop, si vous ne savez pas imposer une limite à votre croissance, imposer une limite à son salaire, par exemple, et imposer une limite à son expansion, à la manière dont j'utilise ma voiture, etc., etc. Si vous ne savez pas imposer une limite à votre croissance, je serai contraint de vous exiler. Je serai contraint, c'est vous qui allez m'y forcer. Afin que la terre se repose de vous. Elle a besoin que vous liquidiez l'espace pour qu'elle se repose un peu, parce que vous l'empêchez de se reposer. Loi écologique. L'exploitation abusive des ressources est donc une des causes de l'exil. Je dis une des causes, car la théologie juive, et ici il utilise le terme de théologie juive, en reconnaît deux. Toujours est-il qu'il me paraît intéressant d'observer que l'exil d'Israël a également une dimension écologique. Peuple témoin, Israël vit parmi les nations pour leur communiquer la mise en garde divine, qui bien entendu est valable pour tous les pays. Venons-en maintenant au problème dont nous parlions dans notre dernier entretien, dit-il ici. Qui dit reproduction, dit écologie, mais dit aussi histoire. Il me semble qu'une conception de l'histoire, remarquons que l'on dit bien conception, qui se traduit par une série d'engendrements, est très caractéristique de la pensée juive tout entière. Nous sommes en présence d'un processus de transmission. Ceci est important. L'essentiel dans l'histoire est la continuité. C'est ce que j'ai reçu que j'ai à transmettre. Peut-il y avoir une histoire dans la discontinuité uniquement? Il faut transmettre, se perpétuer, assurer une descendance. C'est un devoir moral, certes, mais c'est la loi biologique même, plus fondamentalement. Avant que la vie ne quitte un être, elle se transmet par son intermédiaire à un autre qui est son enfant, et ainsi de suite. Il faut vivre, il faut survivre, et il faut transmettre la vie. Il faut savoir que de nombreux individus, de nombreuses familles, de nombreux peuples, heureusement, se sont organisés dans l'ordre de la transmission et de la tradition, afin de se trouver là où il faut être, au moment précis où il faut être. Intéressant que ce jour du Shabbat est considéré d'abord du point de vue de Dieu. Dieu s'arrête. Dieu ne poursuit pas son œuvre jusqu'au bout. Dieu n'accomplit pas son œuvre. Il va laisser à l'homme le soin d'entrer dans cet accomplissement. Et il va enseigner à l'homme de mettre aussi un point à son activité. Prendre sa retraite. Et c'est important, ça. Dire « je ne suis pas éternel ». Et voyez, il y a toute une réflexion intéressante là-dessus. Ne pas vouloir absolument continuer, se perpétuer, mais assurer la continuité, et puis dire « mais voilà ». J'ai achevé mon œuvre, à l'autre de continuer et d'aller plus loin que moi. Ils furent achevés, les cieux et la terre et toute leur armée, et il acheva Dieu, au jour le septième, son ouvrage qu'il avait fait. Et le terme n'est pas inaccompli. Il a globalisé en quelque sorte, avec Kallel, hein, C'est un terme qui n'est pas le terme de l'accomplissement qui serait Vaïchalem. Ce serait différent. Mais il achève, il met un point à son œuvre. Elle n'est pas la meilleure possible, c'est pas dit. C'est très bon, certainement. Mais c'est, voilà. Il acheva Dieu le jour le septième, son ouvrage qu'il avait fait. Et c'est pourquoi le jour le septième va devenir un commandement au Sinaï. Pendant 6 jours, tu fais tout ton ouvrage, et le septième, tu te reposes. C'est-à-dire que tu dis que tu n'es pas Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu mets un terme. Et tu dis maintenant, à Dieu de jouer. J'ai joué pendant 6 jours, à Dieu de jouer. Dieu a joué pendant 6 jours au début de la création, et puis dit maintenant à l'homme de jouer. Eh bien, l'homme va le lui rendre. Si l'homme est à l'image de Dieu, il va découvrir cela. Et il va mettre un terme, un point de suspension ici, à son activité pendant le jour du sabbat. Il ne faut pas nécessairement que je gagne de l'argent tous les jours, y compris le week-end. Je peux vivre quand même un jour gratuitement. Et c'est le règne de la gratuité, de la non-violence, de la douceur. Et il acheva Dieu au jour le septième son ouvrage qu'il avait fait. Il arrêta, il chôma au jour le septième de tout son ouvrage qu'il avait fait. Il bénit Dieu le jour le septième et le sanctifia. Et figurez-vous que le jour le septième de la création, c'est celui que nous vivons. C'est le jour le septième. Nous vivons dans le chômage, dans le repos de Dieu. Dieu, après avoir créé, s'est retiré dans la coulisse, et nous laisse la scène. Et nous avons à remplir la scène et à y vivre comme Dieu y vivrait, selon la loi de Dieu.
C'est comme dans les paraboles, le maître est toujours en voyage.
Toujours en voyage. Sommes-nous prêts? Veillez, vous ne savez pas à quelle heure il revient. Il bénit le jour le septième, c'est-à-dire notre existence, l'histoire du monde, et il le sanctifia. Il est présent dans cette histoire du monde, mais comme absent. Comme le ressuscité, qui est présent dans notre histoire du monde, mais comme absent. On l'a mis dehors, il est dehors. Mais cette fois-ci, on l'a mis dehors avec violence. Et le signe de la violence, c'est qu'il est tué. Mais ici, vous voyez, il n'y a pas de violence dans le premier texte. Elle va arriver, mais plus tard. Mais nous en parlerons de la violence et de l'avènement de la violence dans le monde. De tout son ouvrage qu'il avait créé pour faire. Alors, les commentateurs juifs, évidemment, s'interrogent évidemment ce pour faire. Il avait créé pour faire. Est-ce qu'il l'avait créé pour le faire, pour le fabriquer? Ou bien est-ce qu'il l'avait créé pour que l'homme puisse le faire? À nous de voir. C'est probablement les deux. Ceux-ci sont les engendrements. Et le terme d'engendrement, c'est le terme qui va signifier, en hébreu, hein, toledot, toladot, qui va signifier le terme d'histoire. L'histoire de Belgique, ça se traduit, ou l'histoire de France, ça se traduit en hébreu, les engendrements de la Belgique, les engendrements de la France. On engendre. C'est-à-dire que la conception histoire, le terme histoire français, vient de historia, hein, latin, ou bien grec, qui signifie raconter. L'histoire est un récit. Tandis que l'histoire, dans la mentalité germanique, allemande, néerlandaise, Geschiedenis, Geschichte, c'est ce qui arrive. Trois optiques différentes sur l'histoire. Ce qui arrive, l'événement, ou bien la manière dont on le raconte. C'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire comment on le raconte pour se faire valoir. C'est l'histoire, ou bien c'est l'engendrement, c'est la vie qui se transmet, la vie qui est donnée pour être donnée. Mais si elle est donnée pour être donnée, elle n'est pas mienne. Et je ne peux la transmettre que selon un principe écologique, c'est-à-dire selon la loi de la vie et pas selon ma loi. Voilà, beaucoup de choses dans ce texte, hein ? Ah ben oui. Ah ben. Ah ben. Ça c'est, dit, le sacerdotal est toujours préoccupé d'engendrement. C'est-à-dire, il est toujours préoccupé de transmission de la vie. Et vous trouvez beaucoup dans les textes sacerdotaux, beaucoup de textes qui mettent l'accent sur la bénédiction, l'engendrement, la vie quotidienne, les fêtes, le Shabbat. C'est toute une conception, toute une mentalité de la vie qui apparaît à travers cela. Alors voyez, de ce texte, nous en avons fait, au fond, deux types de commentaires. Un premier type de commentaire, que vous retrouvez dans un certain nombre de livres, et qui vont partir, comme je l'ai fait, ils vont partir des mythes de Mésopotamie. Et c'est comme ça que dans les cahiers évangiles, vous avez la création du monde et de l'homme, la création et le déluge, prière de l'Ancien Orient. Oui, on vous met en main toutes sortes de textes intéressants qui nous disent quel est l'arrière-fond sur lequel ce texte a été composé, à partir duquel ce texte a été composé. Avec déjà une certaine démythologisation, ce qu'on appelle les mythes cosmogoniques, des dieux qui se bagarrent et qui se tuent et qui font naître les hommes, les serviteurs et les serviteurs des serviteurs de ces dieux tués, ou qui malaxent, qui font comme du potier qui malaxe de l'argile avec du sang d'un dieu pour en façonner l'homme. Vous trouvez tout cela dans différentes cosmogonies. Eh bien, c'est quand même l'arrière-fond sur lequel le texte est composé. Mais avec une grande différence. C'est que tous ces éléments mythologiques de dieu, de déesse ont tout à fait disparu. On n'a plus que les réalités concrètes. Et en même temps, il y a, les exégètes modernes aiment bien de le souligner, il y a cette atmosphère de douceur qui émane de ce texte, de cadeau. Dieu s'offre alors, en quelque sorte, dans son don. Vous avez aussi, dans le livre que vous avez peut-être encore dans vos bibliothèques, vous pouvez faire surgir pour la circonstance, de Georges Ozou, c'est un livre qui date quand même déjà de 25 ans à peu près, « Au commencement, Dieu créa le monde », intéressant justement parce qu'il cite tous ces textes, que vous pouvez avoir, dans une traduction bien faite ici, et qu'il cite. Ceux qui n'ont pas le temps de lire toutes ces pages, donc ça c'est dans la collection « Lire la Bible » numéro 36, « Lire la Bible », une bonne collection, de vulgarisation scientifique bien faite, aux éditions du CER, paru en 73. Bon. Vous avez encore... Est-ce qu'il a... Ah ben voilà. Dans le cahier évangile numéro 4, par Pierre Grelot, quelqu'un qui s'y connaît bien, un bon exégète, lui, il cite seulement quelques textes, les plus intéressants, les plus importants, des cosmogonies babyloniennes, le poème babylonien de la création, dont je vous ai lu le début tout à l'heure, lorsqu'en haut les dieux n'étaient pas encore nommés, etc. Créer, c'est nommer. Faire exister, c'est donner un nom. Le nom signifie la réalité que l'homme porte, que l'homme est. Faire exister. J'existe, donc tu me donnes à moi-même. Je suis un cadeau. Homme, qui es-tu? Les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et il refait bien toute cette histoire, le récit de la création. L'image sumérienne du paradis, mais ça nous verrons après, le paradis ça vient après. Nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes devant Dieu créateur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en même temps, je crois que je ne suis pas Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc j'ai un point à mettre à mon action. Je ne suis pas tout. Je n'ai pas tout à faire. Important. Très principe de subsidiarité, dirait-on aujourd'hui. Homme, qui es-tu? Voilà, donc de la littérature. Ça, c'est une voie. Et souvent, cette voie est historico-critique. On part de l'histoire, on voit comment, hein, à partir de ce texte, ont été façonnés d'autres textes, les textes de la Bible. Il y a une autre approche. L'approche de la comparaison avec la science. Tiens, est-ce qu'on peut lire les deux textes? Vous savez, ce sont des problèmes qui se posent dès l'âge de 7-8 ans, hein, au catéchisme. Tu nous dis, hein, dit l'enfant à son ou à sa catéchiste, tu nous dis que c'est Dieu qui a tout créé. Et dans le cours de science, ou dans le cours de biologie, ou je ne sais tout quoi, on dit que c'est l'homme qui s'est créé lui-même, hein, en sortant du singe, et le singe lui-même, vous connaissez, hein, l'évolution. Alors, pour l'enfant, évidemment, qu'est-ce qu'il faut croire? Donc il faut lui apprendre qu'il y a des langages différents. Il ne faut pas lui dire que l'un est vrai et l'autre faux, parce que c'est tout à fait faux de dire cela. Mais il y a deux langages différents, et il faut lui apprendre la diversité des langages, et que tout langage ne dit pas tout. Que chaque langage met un point final. Il met un jour de sabbat, chaque langage. Et donc on ne peut pas prétendre tout dire. Quand le langage devient prétentieux, à ce moment-là, il ne dit plus la vérité. Alors, vous avez un livre qui est bien fait. La publicité est totalement gratuite. Hein,
on n'en doute pas. Je...
Pour lire la création dans l'évolution. Ouais, c'est intéressant de voir. Je parle ici notamment pour les adolescents. Pour lire la création dans l'évolution. Et vous avez un docteur et sciences, un licencié en théologie, un autre docteur et sciences, en collaboration avec deux docteurs et sciences, s'il vous plaît, qui ont écrit ce livre, qui a paru, je ne sais plus chez qui, moi c'est aux éditions du CERF, en 84, 10 ans après celui de Ouzou, 11 ans après. Christian Montenat, Luc Plateau, Pascal Roux. Mais intéressant parce que, vous voyez, il fait réfléchir en montrant toutes les hypothèses évolutionnistes et en les enseignant à l'intérieur d'une histoire. Il y a aussi une histoire, il y a un récit de la découverte de l'évolution et qui réfléchit, grâce à des petits encadrés, qui réfléchit sur cette histoire de la découverte de l'évolution et de la spécification constante de l'homme, dans le langage des sciences, et puis qui donne l'écho du livre de la Genèse. Et puis, mais là nous y viendrons demain, l'expérience du mal et du péché à la recherche des origines. Mais nous viendrons là-dessus demain. Et donc vous avez, tout récemment, par le père Pierre Moulon-Bernhardt, aux éditions Lumen Vitae, vient de paraître, mais c'est tout récent, il y a 2-3 mois que ça a paru, c'est daté du 2 février 96, donc vous voyez, c'est récent. Aux origines du genre humain, que dit la science? Que dit la Bible? Il opère un travail de séparation. Là, c'est un peu plus... Je ne dis pas mélanger, c'est distinguer, mais un peu plus difficile à déterminer les choses. Il y a un langage à percevoir. Ici, il traite en deux chapitres, deux parties du livre, plus exactement. Que dit la science? Et il refait toute l'histoire, c'est passionnant, vous avez à lire. Hein, il refait toute l'histoire de la paléontologie, nous montrant, à la fois, tout à l'heure je vous en ai donné à... très bref raccourci en parlant de 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 3300 l'invention de l'écriture, et puis l'alphabet en ougarite en 1600 avant Jésus-Christ. Et donc ici vous avez toute une histoire de la recherche scientifique sur les origines, à partir de la paléontologie. Tout en vous donnant une bibliographie dans la première partie, c'est bien fait. Ça a été revu d'ailleurs par le père Bonnet, hein, qui n'est pas n'importe qui sur le plan de la paléontologie. Et donc, on peut vraiment se fier à cette première partie. Et puis, deuxième partie, que dit la Bible ? Au lieu de lire la Bible pour nous assurer que nous avons raison, nous ferions mieux de la lire pour découvrir ce à quoi nous n'avons pas encore prêté attention. Il met ça comme exergue à sa deuxième partie. C'est du père Brown dans l'Église héritée des apôtres, un beau livre sur les actes des apôtres. Et alors, il nous montre qu'il y a un autre langage. L'important, c'est de pouvoir harmoniser ces deux langages. En nous rendant compte, oui, d'une approche scientifique et d'une approche d'un tout autre type. Le type de la Bible va nous dire la genèse d'une relation. Elle prend la création non pas comme la formation de la nature. Comment c'est arrivé? Ça, c'est une question que pose la paléontologie, la science. Quelles sont les étapes que nous pouvons assigner, hypothétiques bien sûr, mais avec quand même de plus en plus de fermeté dans ces hypothèses, quelles sont les étapes de la formation de cet univers, de ce cosmos dans lequel nous vivons. Et c'est une aventure passionnante de lire cela. Et je dois dire qu'en reprenant ce résumé, c'est un très beau raccourci. En prenant ce résumé, on dit, mais c'est beau la science humaine. On arrive vraiment à déterminer ses propres origines. Et il y a cela. C'est l'enfant qui enquête sur le fait de savoir s'il est vraiment le fils de son père et de sa mère. Et l'enfant, à qui on a dit qu'il avait été adopté, et qui va faire sa petite enquête. Et qui va faire sa petite enquête de manière scientifique. Et c'est louable, il a le droit de savoir s'il se pose la question. Et de l'autre côté, c'est l'enfant qui essaie de comprendre ce qu'est l'amour de son père et de sa mère. Et comment il est le fruit de cet amour. C'est pas le même type d'enquête, hein. Il ne va pas à la maison communale pour aller voir les registres. Il ne va pas essayer de découvrir dans les lettres de sa maman ou de son papa quand ils ne sont pas là. Il ne va pas essayer de découvrir si on dit quelque chose de lui, de son adoption, etc. Il ne va pas essayer de découvrir les documents de l'adoption elle-même. Non. C'est l'enfant qui s'interroge pour savoir comment il est une œuvre d'amour. Un don. Mais voilà, les deux recherches. Dites de façon très simple. Et on peut quand même dire ça à un enfant, non? C'est quand même possible. De lui montrer que les deux enquêtes ne s'annulent pas réciproquement, mais qu'elles ne font pas état de la même quête intérieure. Il y en a un qui veut savoir, et l'autre veut découvrir ce qu'il est dans l'amour. Il se rend compte confusément qu'il est l'objet d'une attention particulière. Comment lui laisser découvrir la présence de Dieu dans l'amour de son père et de sa mère? Il y a encore d'autres textes. Il y a un texte qui est pas mal, qui est intéressant. Parfois peu énervant, mais il est intéressant parce qu'il a un peu un ton de un peu paternaliste, disons. C'est le père Manarance qui a fait un livre pour les jeunes, dans une série pour jeunes, chez Fayard, en séparant le sable et l'eau, la création. Et il y a toute une réflexion à l'usage des jeunes qui est intéressante. Vraiment, oui. Croire en l'amour originel. Le terme n'est pas donné. Il faut le découvrir. Il dit beaucoup de choses. Il fait des va-et-vient entre l'écriture ancien-nouveau testament, la science, les réflexions modernes, hein, la littérature. C'est pas mal fait. Et il résume dans la couverture, là, ce qu'on met à la fin, la création a commencé, mais ce n'est pas le Big Bang. Le Big Bang, ça, c'est du monde de la science. C'est la tendresse de Dieu qui est la source de ma vie, car je suis autant créé qu'Adam et Ève. La création, c'est ma relation à Dieu. Donc ce texte me parle de ma relation à Dieu. Comment ça naît, ce machin-là? Comment ça vient? Et je peux détailler, et on fait cela en expression corporelle, on détaille toutes les parties de son être en découvrant comment elles sont créées par Dieu. Et je me perçois, hein, sortant des mains façonnantes de Dieu. Dieu qui travaille comme un potier, Dieu qui travaille par sa parole. Et sa parole m'est donnée, sa parole me suscite. Voilà. La foi ne fait pas d'archéologie. Elle fournit la raison de vivre. Voilà une bonne nouvelle, le tout premier évangile. L'univers n'est pas incohérent. Il ne se réduit pas non plus à un ensemble de règles mathématiques, même si on peut, hein, le transposer en règles mathématiques. Il vient du Père et nous parle de lui. Ce n'est pas une chose neutre, un no God's land. En passant par les forêts, Dieu y a laissé sa beauté, comme l'écrit Jean de la Croix, en reprenant le Cantique des Cantiques. L'homme et la femme appartiennent à ce monde, ne serait-ce que par leur corps. Mais ils en émergent parce qu'ils sont des êtres personnels, faits pour se donner librement. Difficile équilibre, car qui veut faire l'ange fait la bête. Et puis il y a les anges, ces grands caricaturés, ces grands oubliés. Pourtant, la Bible ne cesse de les montrer à l'œuvre. Quand on néglige cet univers invisible, les idées farfelues prennent la place. À la limite, Satan devient une divinité concurrente. Mais ça, c'est pour demain, ça. Jésus-Christ n'est pas un tard venu, un réparateur, mis devant la casse accomplie. C'est ce Fils dont nous sommes l'image, faisant l'homme. Il faut lui redonner toute son ampleur. Alors, encore quelque chose pour, hein, montrer, voilà deux livres, ou trois livres plutôt, qui vont quelque peu dans le même sens. Mais il faut vous dire qu'on écrit beaucoup sur le sujet. Hein. Celui-ci, il date maintenant de, on va voir, tiens, 90.
Puis en quoi est-il un peu énervant?
Mais parce que, à cause de son ton un peu paternaliste. Et pour les jeunes, c'est parfois un peu énervant d'avoir ce ton derrière vous, de quelqu'un qui veut vous apprendre quelque chose. C'est là qu'il est un peu énervant. Bon.
C'est plus facile, je parle toujours de dire à l'enfant ou de dire aux jeunes, c'est plus facile de faire sentir ses deux langages que de le faire sentir à des adultes.
Oui.
L'enfant, il entend qu'il y a plusieurs langages.
Oui.
Il entend bien plus facilement.
Mais à un certain moment, il va l'oublier.
Oui.
Mais l'adulte, en tout cas, l'a oublié. Donc il faut le lui rendre. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose d'un peu différent. Là, c'est le langage psychanalytique. Enfin, pas tout à fait. C'est à la fois sociologique, anthropologique et psychanalytique. C'est par Yves Louillot, l'homme clé en main. L'homme clé en main. C'est un psychanalyste, lui. Hein? Et donc, lui, il fait un travail très différent. Cet ouvrage est une relecture pédagogique des 7 jours de la Genèse, Il regarde ce texte de la Genèse comme étant hein, initiateur d'une psychanalyse l'homme clé en main. De Yves Louyot, vous connaissez Yves Louyot, hein, L-O-U-Y-O-T, on en parle. Ce sont les éditions Saint-Augustin, ceci. Hein. Et ça a paru il y a quel... Oui, c'est l'an passé, 95. Alors, c'est intéressant parce que, mais, en tant que psychanalyste, il relit cela, et ça évoque pour lui un certain nombre de choses. Et donc, il refait une sorte d'anamnèse, l'homme, à partir de ce texte, refait sa propre anamnèse. Et donc, il se rapproprie, se réapproprie le texte de la Genèse, en pensant à son évolution, depuis zéro jusqu'à aujourd'hui. Cet ouvrage d'une relecture pédagogique des sept jours de la Genèse, il propose un exercice simultané de lecture biblique et de remémoration d'expériences humaines dans lequel la confrontation au texte ne provoque que des résonances inertes et sans passion chez le lecteur. Hein, le texte lui-même, quand on vous dit le texte, connu. Non, c'est pas connu. Et alors, il essaie de montrer comment ce texte réactive en quelque sorte en nous la mémoire. Depuis notre état, j'arrive, depuis notre état embryonnaire jusqu'à notre état actuel, oui.
Mémoire collective, ou personnelle.
C'est un psychanalyste. Alors, ça veut dire que c'est à partir de la remémorisation de l'anamnèse personnelle qu'il tire un certain nombre de conclusions de psychanalyste. Hein.